Réplique, variation sur la rupture, avec Nathalie Azoulay et Sabine Melchior-Bonnet. La littérature ne consiste pas seulement à nous raconter des histoires, à nous bercer de fiction. Elle met des mots sur nos mots, et notamment sur ce mal de plus en plus banal et toujours aussi atroce, la rupture, la séparation, l'amour qui se brise, l'intolérable douleur d'être quitté. Pour en parler aujourd'hui, j'ai invité Sabine Melchior-Bonnet, qui est spécialiste de l'histoire des sensibilités, et la romancière Nathalie Azoulay, qui après « Titus n'aimait pas Bérénice » publie « Clic-clac ». Partons donc de ce livre et de son titre « Sec et mystérieux ». Pourquoi « Clic-clac » Nathalie Azoulay ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
« Clic-clac » est le nom d'un film qui veut être tourné par... Claire Gantz, qui est l'héroïne du roman. Et c'est un projet, en fait, esthétique qu'elle a, de tourner une scène de retrouvailles après rupture entre deux amants, qui serait une scène extrêmement vive, extrêmement rapide, et qui ne laisserait absolument aucune place à l'effusion sentimentale d'un revoir ou de retrouvailles quelconques. Donc c'est résolument un titre expéditif, un peu provocateur, qui signifie en effet cette sécheresse et cette volonté de couper la tête à l'effusion sentimentale de l'amour.
Telle qu'elle est prévue, cette scène, ils se retrouvent, Marie et Pierre, ils se sont aimés, elle lui dit « je ne veux pas te voir », c'est tout ce qu'elle lui dit, et vous ajoutez « c'était l'homme de sa vie, celui auquel elle avait dit « je t'attendrai toute ma vie ». Et est-ce qu'au bout du compte, elle tourne cette scène ?
Elle va la tourner, mais d'une manière différente de l'intention première, et après bien des déboires. C'est-à-dire qu'en fait, cette scène n'est pas une scène de rupture proprement dite, c'est vraiment une scène de revoir après rupture, qui permet d'étudier et d'observer à la fois comment s'est passé l'amour et comment l'amour s'est terminé. C'est-à-dire que c'est un peu un pont jeté au-dessus de l'amour qui permet à la réalisatrice d'examiner la substance de l'amour dans le temps, en fait. C'est ça qui l'intéresse. Et par l'intermédiaire de ce projet qu'elle a, en fait, elle identifie une scène que tout le monde a à peu près vécu dans sa vie et que le cinéma a beaucoup montré, qui est presque un topo cinématographique, mais qui n'a pas de nom. De fait, ce n'est pas une scène de rupture et ce n'est pas vraiment une scène de retrouvailles. Et moi-même, je ne lui donne pas de nom, je dirais que c'est une scène de revoir, tout simplement. Mais l'intérêt que Claire Gantz prend à ce projet, c'est vraiment de mettre en mots, comme vous le disiez, ou en tout cas de fixer, d'identifier une scène banale, une scène fondamentale, mais qui n'a pas de nom.
Oui, et elle veut échapper au mélo. Cependant, Claire Gantz se souvient d'un certain nombre de scènes de revoir, trois, très importantes pour elle. Nos plus belles années, de Sidney Pollack, avec Robert Redford et Barbara Streisand. La fièvre dans le sang, d'Elia Kazan, avec Warren Beatty et Natalie Wood. Et enfin, les parabules de Cherbourg, avec Catherine Deneuve et un acteur dont on a oublié le nom. Et ce sont des scènes de revoir un peu mélodramatiques, parce que c'est un revoir accompagné d'un pardon. Elle ne veut pas de pardon. Et cependant, la scène qu'elle finit par tourner, et qu'on lit à la toute fin du livre, est quand même beaucoup plus mélo que la scène qu'elle avait prévu de tourner, Nathalie Azoulay.
Absolument. Au départ, son projet, c'est vraiment de couper la tête à toutes ces scènes et de travailler contre ces scènes. Justement parce que ce sont des scènes qui durent, qui donnent vraiment beaucoup de place à l'effusion sentimentale, qui permettent d'espérer que l'amour renaisse à un moment donné, en tout cas qui souffle sur les braises de l'amour quelque chose qui soit de l'ordre de la renaissance possible. Et en même temps, évidemment, qui clôture cette renaissance et qui l'en empêche. Mais donc Claire Gantz a pour projet de partir de ces scènes-là pour proposer une nouvelle version de cette scène de revoir qui serait une version beaucoup plus expéditive, comme je le disais, beaucoup plus sèche, et qui peut-être permettrait de réégaliser la place de celui qui a été quitté et de celui qui a quitté. Parce que les scènes dont vous avez parlé, les scènes et de Polak et de Demi et de Kazan, sont toutes l'occasion de montrer des femmes qui s'avancent dans cette scène et dans cette situation avec une forme d'espoir, avec une forme de fébrilité et avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Et le projet de Claire Gantz, c'est de vraiment de rendre impossible cette émotion et de faire que ces femmes ne soient pas des femmes transies d'amour comme dans ces trois films qui sont en effet mélodramatiques. Et la scène qu'elle va finalement tourner, encore une fois après bien des péripéties et bien des réflexions, sera en effet une manière de renouer avec cette veine sentimentale et avec cette proposition qu'au départ elle voulait absolument démentir.
Alors, Sabine Melchior-Bonnet, vous avez publié Les Revers de l'amour, une histoire de la rupture. Est-ce que Clic-Clac, l'histoire de Clic-Clac, prend place dans cette plus vaste histoire de la rupture?
Oui, elle prend place et j'ai beaucoup aimé le livre de Nathalie. J'aurais envie de lui ajouter un volume de plus après sur la mémoire et l'oubli. L'oubli, est-ce que vraiment il suffit de faire un clic-clac pour que ne pas être hanté tout le temps par une relation qui a été blessée? Et je pense que il y a une torture de la mémoire qui maintient. Et je pense à un texte de Proust dans Le Temps retrouvé, où il explique qu'il a la mémoire volontaire et la mémoire involontaire lui ont fait oublier Albertine. Mais qu'un jour, il est dans son lit, il rêve, et il rêve qu'il a une femme dans ses bras, et il crie « Albertine ». Donc, même la mémoire involontaire, elle est toujours là, en ressurgir. Et quand il y a comme ça une fin d'histoire, la mémoire est là pour vous rappeler qu'on ne peut pas oublier vraiment une histoire d'amour.
On ne peut pas oublier une histoire d'amour, mais dans le cours de ce roman, Claire Gantz dit ou pense qu'elle veut faire un film contre le pardon. Un cri de guerre pour qu'on cesse de nous vendre des générations de filles transies. Et d'ailleurs, Sabine Melchior-Bonnet, vous dites que la littérature ne fait pas que refléter la réalité, elle la modèle. Oui, peut-être que la littérature, le cinéma ont modelé une certaine réalité où les femmes étaient transies d'amour, même quand les hommes les quittaient. Alors, elle a cette intention, mais comment se fait-il qu'elle n'arrive pas au bout de cette intention? Qu'est-ce qui modifie ce projet original qui avait quelque chose, si j'ai bien compris, d'un peu militant, Nathalie Azoulay?
Alors en effet, le projet qu'elle a est très volontariste, c'est-à-dire qu'il y a une volonté qui veut s'ériger contre un sentiment, contre une prédilection pour le pardon, mais une impossibilité qui est là aussi et qui est en fait la traduction d'un ressentiment. Et c'est bien pour ça qu'elle n'arrive pas à tourner cette scène, c'est que le ressentiment semble faire dévier de sa voix la scène projetée. Et c'est pour ça que les acteurs ne comprennent pas. Ils lui disent sans arrêt, mais ils ne se sont plus revus depuis des années, le temps a passé, et pourtant la colère est là, très vive, presque la rage, et le ressentiment est un peu illogique. Et elle, c'est vrai qu'elle bataille pour que ce ressentiment ait de la place, et pour que ces femmes apparemment transi d'amour, n'arrive pas avec un pardon tout prêt. Et ce que le cinéma contre lequel elle travaille a prouvé, c'est-à-dire que et Barbara Streisand, et Nathalie Wood, et Catherine Deneuve ne sont pas des femmes de ressentiment. Elles sont pacifiées, elles sont peut-être tristes et bouleversées, mais elles n'ont pas de colère apparente. Le seul qui en est une, c'est le personnage masculin des Parapluies de Cherbourg, qui est très bougon, qui est très bourru, et qui est encore un peu teigneux, parce qu'il en veut encore à celle qu'il a plus ou moins quittée, qui était donc Catherine Deneuve. Mais en dehors de lui, ils sont tous très pacifiés. Et c'est vrai que Claire Gantz n'a pas envie de cette paix-là, n'a pas envie de ce pardon-là, et veut donner toute sa place au ressentiment. Et ce qui fait que finalement, elle n'arrivera pas à tourner la scène comme elle le voudrait, bon, c'est bien d'autres événements dans sa vie, en fait, qui sont, à commencer par la perte de sa mère, qui est en fait la vraie raison pour laquelle elle a voulu faire ce film. C'est-à-dire que sa mère a été à la place de ses femmes et a vécu une histoire d'amour très malheureuse qui l'a terrassée, qui l'a empêchée d'en vivre d'autres. Et donc, Claire Gantz fait ce film pour venger sa mère d'une certaine manière. Mais il se trouve que cette mère a été aussi une femme d'une extraction assez populaire qui a beaucoup aimé ses films mélodramatiques et qui les a fait voir à sa fille, et qui a d'ailleurs fait naître la vocation de cinéaste de sa fille à travers ce cinéma-là. Et bon an mal an, au fur et à mesure de tous ces déboires et de toutes ces péripéties que vit Claire Gantz pendant le tournage de son film, elle revient, je dirais, à cette origine esthétique, à cette origine populaire, et finalement elle renoue avec cette veine sentimentale que son travail lui a fait oublier, que son travail lui a fait écraser sous d'autres motivations esthétiques qui étaient plus cérébrales, plus intellectuelles. Et clic-clac, au départ, c'est une injonction intellectuelle, c'est une motivation intellectuelle, et finalement il va y avoir tout le débat et tout le dilemme entre l'esprit et le sentiment qui va être à l'œuvre dans ce projet de tournage. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, elle va lâcher. C'est qu'elle va revenir à cette expression du sentiment qui a été interdite pendant tout son travail, pendant toute sa carrière, et qui ressurgit à l'occasion d'un deuil et d'une souffrance intime.
Ah, vous dites, c'est l'esprit contre le sentiment, mais quand on pense à votre livre précédent sur la rupture, Titus n'aimait pas Bérénice, Nathalie Azoulay, on voit ce que peut être la force sentimentale du ressentiment, si j'ose dire, puisque le personnage de Bérénice est quitté brutalement lors d'un dîner, enfin d'un repas, par Titus, qui revient vers sa femme, Roma, en l'occurrence, et elle essaye de se consoler en lisant Racine, et elle retrace la vie de Racine, elle médite sur Bérénice, et d'autre part, ce Titus est en train de mourir, le sien, si on peut dire, et elle refuse d'aller assister à son agonie, alors que sa femme, Roma, le lui demande, tellement est fort le ressentiment qu'elle éprouve, la douleur qu'elle a d'être quittée, et une douleur dont on peut penser qu'elle ne s'arrêtera jamais, qu'elle continuera même après la mort de Titus. Donc ce ressentiment n'est pas forcément d'ordre intellectuel. Nathalie Azoulay.
Non, vous avez raison. Il y a là une vitalité du sentiment qui s'exprime à travers le ressentiment. Et d'une certaine manière, Claire Gantz, dans ses indications de jeu pour ses acteurs, elle est très racinienne. C'est-à-dire qu'elle veut en effet faire valoir la place de la rage, de la colère et du désir de vengeance que peut éprouver une héroïne racinienne. Donc en ce sens-là, oui, le ressentiment est tout à fait vital. Et je dirais donc qu'il y a à la fois ce ressentiment qui donne de la vitalité et qui fait que le film n'est pas juste un projet cérébral ou intellectuel, mais il y a aussi cette manière de renouer avec un goût pour le cinéma expressif et le cinéma sentimental, qui d'ailleurs n'est pas péjoratif quand je dis j'utilise l'adjectif, mais qui a été interdit, qui a été un peu banni par Claire Gantz pour des raisons là plus sociales, plus sociologiques.
Alors Sabine Melchior-Bonnet, justement, quelle est la part de la rage, du ressentiment dans la rupture dont vous racontez l'histoire, non pas à travers des romans, mais à travers des ruptures, des séparations qui ont eu lieu. Alors souvent entre écrivains ou artistes, puisque vous racontez l'histoire d'Alfred de Musset et de Georges Sand, de La Rochefoucauld et de la Duchesse de Longueville, de Sartre et de Beauvoir, mais pas seulement. Et justement, oui, quelle est la place de la rage dans tout ça ?
Oui, je pense qu'il y a un besoin, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, qu'il y a un besoin de vengeance et de revanche. Et les deux sexes ont ce sentiment et ce besoin. La Rochefoucauld va écrire dans ses mémoires, il va expliquer comment il a machiné tout un système pour que la duchesse de Longueville et son frère, le prince de Condé, se séparent et que son amant l'abandonne, puisqu'il a été remplacé, croit-il, par le duc de Nemours.
Oui, mais alors vous dites aussi, quand même, il était blessé, mais il a rompu tout de suite, La Rochefoucauld. Et il dit, celui qui rompt le premier est le premier guéri. Donc, veut quand même la faire souffrir pour souffrir moins lui-même.
C'est ça.
C'est ça sa vengeance.
C'est ça sa vengeance. Et il n'est pas le seul, en fait. Beaucoup les femmes se vengent aussi, quelquefois en prenant un amant très vite ou en écrivant, par exemple. Évidemment, ce sont des écrivains. Je pense à Marie Dagout et Liszt. La première chose qu'elle fait quand ils se séparent, c'est d'écrire un roman qui s'appelle Nélida, où elle invente un personnage qui ressemble beaucoup à Liszt, mais c'est un peintre. Et elle décrypte tous les défauts de Liszt à travers ce peintre. Et c'est une vengeance. C'est un très mauvais livre, mais c'est une vengeance immédiate. Et
qui a porté. Le livre a eu du succès ou pas?
Le livre n'a pas eu beaucoup de succès, mais il a beaucoup blessé Liszt. Et ça a creusé encore plus le fossé.
Mmh. Mais alors, quand on vous lit, Sabine Melchior-Bonnet, on constate que la plupart des ruptures sont faites, dans l'histoire que vous racontez, à l'initiative des hommes. Ce sont les femmes qui se retrouvent délaissées. Cela a-t-il une signification dans l'histoire de la rupture, Sabine Melchior-Bonnet ?
J'ai cherché des couples où c'était l'inverse, c'était la femme qui quittait l'homme et qui tenait le gouvernail, et j'ai pas trouvé, parce qu'au fond même Simone de Beauvoir qui prend peut-être l'initiative de quitter Nelson Algren, en réalité, elle ne le fait que parce que Sartre lui a imposé un calendrier, veut l'avoir à ses côtés, et donc ça a entraîné une impossibilité de se voir. L'autre, c'est Georges Sand et Musset, mais là, la liaison était devenue impossible. Il y a un côté un peu détraqué chez Musset, et leur liaison nuisait beaucoup aux enfants de Georges Sand. Donc, elle a pris, elle, l'initiative et de rompre et de montrer qu'elle pouvait avoir une vie d'homme, c'est-à-dire être indépendante économiquement, affectivement. Et donc, c'est elle qui a quitté Musset. Mais la plupart du temps, c'est l'inverse. Ce sont les femmes qui sont quittées. Mais quelquefois, les hommes s'arrangent pour que la décision ait l'air d'être prise par elle.
Par elle.
C'est eux qui la prennent dans le fond, mais c'est elles qui vont aller jusqu'au bout et qui vont passer le Rubicon, si je puis dire.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
C'est difficile de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Il se trouve que dans mon roman, la situation est à peu près identique. C'est une femme qui est quittée et qui est terrassée après pour longtemps. Et c'est pour cette raison-là que Claire Gantz, le personnage, veut tourner un film contre cette situation-là, pour rétablir une forme d'égalité. Et c'est la raison aussi pour laquelle, quand elle-même va vivre une histoire dans le roman, elle va quitter la première, pour justement ne pas être quittée. Alors, je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Moi, je dirais que les femmes, pendant longtemps, l'amour a été leur grande affaire et elles n'en avaient pas d'autres. Donc, forcément, il y avait moins d'alternatives pour elles que pour des hommes qui couraient le monde et qui avaient d'autres moyens d'action que de s'investir dans des histoires amoureuses. Donc, de fait, elles ont plus subi que dirigé les opérations. On espère que ça changera un jour.
Oui, mais dans vos romans, aussi bien Titus n'aimait pas Bérénice que Clic-Clac, c'est encore le cas. C'est encore le cas. Ce sont des hommes qui choisissent de rompre la relation et des femmes qui sont bouleversées par cette séparation brutale.
Absolument. Et pourtant, ce sont des femmes a priori modernes. Mais sans doute sont-elles encore un peu ringardes sur le plan amoureux en étant dans cette situation de femme séduite et abandonnée. Je ne sais pas s'il y a des leçons très générales à tirer de cette affaire-là. Je dirais que la situation est encore beaucoup dans ce déséquilibre.
Et vous dites ça aussi d'ailleurs.
Oui, je pense qu'il y a des espèces d'éléments féministes, par exemple chez les précieuses. Et les précieuses, par exemple Mademoiselle de Scudéry, qui d'ailleurs ne s'est jamais mariée et n'a peut-être jamais été quittée, mais elle explique bien qu'un amour donné, s'il est bafoué, implique une vengeance. Elle utilise vraiment se venger. Donc il y a tout de même des réactions. À ça. Alors, leur meilleure vengeance, c'est d'écrire des livres. Je pense aussi, par exemple, à Madame Riccoboni, au XVIIIe siècle, qui a écrit plusieurs livres où elle montre la perfidie, le manque de loyauté des amants. Et on devine derrière qui sont les noms des gens visés.
Oui, mais d'un autre côté, alors nous sommes dans une, la situation a quand même changé. Les femmes ont acquis une certaine liberté. L'amour n'est pas leur seule affaire. Le divorce se fait de plus en plus facilement, et on se rend compte que s'il reste une différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes sont capables de mettre plus sincèrement et donc plus brutalement fin à une relation que les hommes. J'en veux pour preuve un très beau, je ne sais pas si vous l'avez vu, un très beau film qui malheureusement n'est diffusé que sur Netflix, de Noah Baumbach, qui s'appelle Marriage Stories. C'est un film absolument magnifique, avec Scarlett Johansson et Adam Driver, qui sont deux acteurs tout à fait extraordinaires. C'est un couple new-yorkais, il est metteur en scène, talentueux metteur en scène de théâtre, elle est actrice, et c'est elle qui part. Le couple bat de l'aile, il y a des petits problèmes, mais pas si graves que ça, et elle décide de partir, et lui-même est absolument sidéré de ce qui arrive. C'est-à-dire que cette crise de leur couple, ils l'acceptaient plus ou moins, en tout cas, ils n'auraient pas pris l'initiative de la rupture. Et il est absolument dévasté. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi tenir compte de ce phénomène, de cette capacité des femmes de mettre plus facilement fin à une relation qui bat de l'aile que les hommes qui ont tendance à s'installer dedans?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, vous avez tout à fait raison. C'est comme ça que ça se passe, puisqu'on sait, je crois, statistiquement, que quand il s'agit de séparations qui ont lieu après 5 ou 6 ans de vie commune et de mariage, c'est les femmes qui partent. C'était pas du tout comme ça autrefois. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes, quand ils partent, c'est que généralement, ils ont une solution de rechange, alors que les femmes, voilà, si elles partent, c'est que vraiment la situation, leur vie commune, voilà, est devenue impossible.
Okay. Elles partent plus courageusement que,
voilà,
les hommes.
Il y a peut-être une loyauté plus grande chez les femmes qui veulent mettre leur vie en accord avec leur pensée.
Nathalie Azoulay.
Non. Mais pour revenir sur l'exemple que vous citez, en fait, ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a un rapport de force et qu'on n'a pas la séquence précédente. Et la séquence précédente, c'est qu'elle a subi le pouvoir de cet homme pendant des années.
C'est ce qu'elle dit.
C'est ce qu'elle dit.
C'est ce qu'elle
Mais
dit.
C'est la motivation qu'elle a. Donc, oui, elle a envie de renverser les choses, et si elle part, c'est parce que d'abord, elle est un peu exilée à New York, et qu'elle vient de la côte ouest, où elle a une famille qui est très présente et très soutenante, et aussi parce qu'elle a une proposition de travail très lucrative,
un peu nulle.
Peut-être nulle, mais qui lui assure un confort et une tranquillité matérielle substantielle. Ce qui fait qu'elle est en position de force pour la première fois, et qu'elle décide de prendre ses clics et ses claques, et son fils, et de repartir à l'autre bout de l'Amérique. Donc il y a un rapport de force qui est renversé, et lui en fait n'avait pas conscience de ce rapport de force, mais aussi parce qu'il était dominateur dans la première partie de la séquence et de cette histoire. Donc c'est un rétablissement que vous avez l'impression de vous dites qu'il est un peu injuste, mais je pense qu'on n'a qu'une séquence
de l'histoire. Non, je ne dis pas forcément qu'il est injuste, puisque je crois que les hommes sont majoritairement plus lâches que les femmes, mais je trouve votre vision de ce film est très intéressante, parce qu'il est vrai que, sans le vouloir, dans Marriage Story, je me suis identifié au personnage joué par Adam Driver. Et je me suis dit tout le temps, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle part? Mais c'est atroce, pourquoi elle lui fait ça, etc. Et je pense que c'était une interprétation biaisée, j'avais tort. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. Et puis je signale aussi que la fin du film est très belle, parce que là, la séparation est consommée. Et alors c'est une scène finale, hein. C'est pas clic-clac, justement. Mais c'est pas le pardon non plus, mais c'est quelque chose. C'est-à-dire que il s'en va, elle le regarde partir, et elle revient vers lui pour lui lasser sa chaussure. C'était le geste quand même quotidien d'un amour qui demeurera entre eux malgré la rupture. Donc, c'est comme une sorte de réconciliation dans une certaine douleur.
Oui, et alors je n'avais pas mémorisé ce détail, mais vous faites bien de le rappeler, parce qu'en plus, je pense que c'est une citation du film de Sidney Pollack, dans la mesure où la première fois que Streisand et Redford ont un contact un peu, je dirais, troublé et amoureux, c'est quand elle vient et elle s'approche et il lui refait son lacet de chaussure.
Bon, vous dites aussi, Sabine Melchior-Benet, que ce qui est particulièrement douloureux dans la rupture, c'est la perte d'estime de soi. Alors, je voudrais que vous alliez un peu plus loin, parce que je ne suis pas convaincu par cette interprétation. Comme si la souffrance était d'abord narcissique.
Elle l'est en tout cas. Non, ce que je voulais surtout exprimer, c'était que pendant très longtemps, l'amour ne touche pas réellement, touche plutôt tout l'environnement de la personne qui a été abandonnée. C'est-à-dire que c'est une famille, c'est un groupe, sa surface sociale. Alors que plus la société devient individualiste et plus la blessure touche l'être au cœur. Et qu'en réalité, au fond, dans l'amour, et dans l'amour réussi, on a une estime de soi qui est validée même par l'extérieur, par le regard. Et quand on est une femme abandonnée, on perd au regard des autres d'abord, et de soi-même, on perd l'estime de soi. Enfin.
Oui, mais justement, je ne sais pas, l'expérience peut se révolter contre une telle interprétation. Il m'est arrivé, moi, d'être quitté. Heureusement, c'est une rupture qui a été sans lendemain, une rupture. Mais pendant quelques jours, j'ai cru que c'était une véritable rupture. Et c'était la perte de l'autre qui me mettait par terre. Oui. Perte d'estime de soi. Non, oui. Il peut m'arriver de cesser de m'estimer moi-même. Ça m'arrive au moins une fois tous les deux jours. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Je me disais, mais c'est pas possible.
Je perds
l'être aimé. Je n'aimerai plus jamais comme ça. Et je ne pourrai pas m'en relever. Donc, pourquoi ramener à soi quelque chose qui est peut-être d'un autre ordre.
Oui, mais c'est aussi l'idée que à la rupture s'ajoute le fait qu'on sera remplacé, et que le fait de pouvoir être remplacé par quelqu'un d'autre qui prendra votre place auprès soit d'un homme, soit d'une femme, aggrave beaucoup la vision qu'on a de soi-même.
Ah oui, mais vous l'avez dit vous-même, les femmes savent quitter sans avoir une solution de rechange. On peut être quitté par quelqu'un qui vous dit « ça suffit, ça marche pas, j'en ai marre, on arrête », et elle ne va pas vers quelqu'un d'autre. Évidemment, après, si elle s'installe avec ce quelqu'un d'autre, alors des envies terrifiantes, des envies de vengeance dont je parlerai tout à l'heure, mais au départ, c'est ça, c'est l'autre qui vous manque, et que vous dites, peut-être à tort, peut-être à raison, que vous ne pourrez pas le remplacer. C'est ce genre d'expérience aussi dont vous parlez. Nathalie Azoulay, notamment dans Titus et Bérénice.
Oui, alors dans Titus et Bérénice, il y a la question de la préférence. Et la question de la préférence, c'est ce que disait Sabine Melchior-Bonnaz, c'est-à-dire que vous êtes abandonné au profit d'un ou d'une autre. Donc il y a forcément une blessure narcissique qui émane de cette concurrence dont vous êtes le perdant. Pour ce qui est de la question de la dévalorisation de soi, je dirais que c'est un peu... le fait de l'amour moderne, c'est-à-dire l'amour moderne qui est le choix d'une personne pour la personne, apparemment, c'est-à-dire sans intérêt ni social, ni patrimonial, ni tous ces intérêts qui faisaient que le mariage n'était pas d'amour autrefois, et aujourd'hui l'union est là pour célébrer le choix d'une personne par une autre, si bien que l'enjeu, je dirais, est narcissique et personnel, est beaucoup plus grand. Donc c'est vrai que la perte de ça inflige une blessure qui est aussi beaucoup plus grande qu'autrefois. C'est la question de l'amour au temps de la modernité.
Et vous pensez donc que c'est d'abord et avant tout une blessure d'ordre narcissique? Vous êtes d'accord avec le diagnostic de Sabine Melchior-Bonnet, Nathalie Azoulay?
J'ai l'impression que oui. Si vous prenez le terrain de l'adultère, par exemple, du moment que l'adultère n'est pas connu, l'humiliation n'existe pas et la blessure est moindre. À partir du moment où l'adultère est connu de tous, l'humiliation est totale, publique, et la blessure est énorme. Et j'ai le sentiment que le narcissisme est quand même une des motivations de l'amour.
Oui, vous êtes sûr. Enfin, aimer, l'amour, c'est aimer quelqu'un d'autre que soi. C'est vraiment la merveille de l'amour. C'est-à-dire, ce prochain, on ne l'aime pas comme soi-même, mais plus que soi-même.
Oui, et mais la part de l'illusion est grande.
Et donc, une fois que cette personne vous quitte, c'est à elle que vous pensez, et pas tout de suite à vous et à votre ego. Il me semble, non, je me trompe peut-être.
Je ne sais pas qui a raison dans cette affaire, parce que l'amour, c'est très difficile à définir. En tout cas, si je reviens à mon roman, cette scène qui n'est donc ni une scène de rupture ni de retrouvailles, qui est une scène de revoir, est intéressante dans la mesure où chacun revoit l'autre. Mais la question que pose Claire Gantz et que pose donc l'identification de cette scène, c'est qu'ont-ils revu? Et en fait, c'est à la fois une manière d'examiner l'amour, d'examiner l'illusion qui a pu avoir lieu, puisque l'amour n'est plus vraiment là, et d'opérer une forme de désillusionnement et des personnages impliqués, mais aussi du spectateur. C'est-à-dire que si ces scènes sont si bouleversantes, c'est parce que le spectateur n'a qu'une attente, c'est que ça revienne. C'est que quelque chose redémarre, que quelque chose renaisse.
Oui, et en j'adore fait, ça, moi, au cinéma.
Bah, voilà, les réconciliations. Tout le monde aime ça. On voudrait tous qu'ils repartent ensemble et que les vies qu'ils ont construites respectivement se cassent la figure. On n'aurait aucun problème à prendre ça. Donc, c'est vrai que le spectateur est désillusionné parce qu'il se rend bien compte compte que si amour il y a eu, amour il n'y a plus. Et donc, vous voyez que cette matière de l'amour est quand même quelque chose de très volatile et de très illusoire, qui ne résiste pas à tout.
C'était le thème de Stanley Cavell avec la comédie du remariage, et qui montrait au fond qu'il y avait une possibilité de réparation. Bon, mais c'était un film, et c'était dans les années entre 40 et 50, et aujourd'hui, l'amour se fait pas du tout de la même façon. Mais
c'est-à-dire
qu'à l'époque, ils considéraient que la conversation, c'était souvent, on se quittait parce qu'on ne s'était pas parlé assez à fond, et ils mettaient la conversation dans un couple au premier degré, et ensuite ils proposaient le voyage pour changer totalement de décor. Et à ce moment-là, on pouvait repartir sur des bases neuves, mais c'est du cinéma heureux des comédies des années 50.
Oui, vous dites que c'est terminé. D'un autre côté, vous écrivez, Sabine Melchior-Bonnet, qu'il y a une dissymétrie entre les hommes et les femmes, qui se lie dans la littérature romanesque et le cinéma, qui construisent de préférence leur intrigue autour de la souffrance de la femme trahie, plutôt que de l'homme trompé, celle-ci incarnant le versus tragique de l'amour délaissé, et celui-là la liberté du renouvellement. Mais alors, n'est-il pas temps pour le cinéma et la littérature de faire un peu autre chose, puisque les ruptures se font très facilement aujourd'hui, et les hommes quittés, ça existe. Il y a des femmes plaquées, mais il y a des plaqueuses. Hein.
Oui, mais ça, c'est quelque chose de très récent. Encore une fois, moi, j'ai vu ce thème-là à travers l'histoire, et pour montrer justement qu'il y a un changement, un bouleversement depuis une vingtaine d'années.
Ah oui.
Parce que, pour mille raisons, encore une fois, les femmes n'ont pas les mêmes chances que les hommes. Il y a une horloge biologique. On a beau dire que l'égalité est là, mais en réalité, on demande aux femmes d'être toujours belles. On ne demande pas à un homme d'aller faire de la chirurgie esthétique, donc il reste ce qu'il est. Alors que si vous voulez, il y a une inégalité profonde, biologique, esthétique.
On lui demande un peu de faire de la gymnastique. S'il devient trop gros, c'est mal vu quand même. Il y a des exigences. Et puis alors, les femmes ont gagné. Balzac écrivait La femme de 30 ans, comme si déjà c'était les prémices du vieillissement. Maintenant, les femmes ont gagné plusieurs décennies.
Voilà.
Moi, je l'ai compris quand j'ai vu ma saison préférée avec Catherine Deneuve. Elle avait 50 ans, elle n'avait jamais été aussi belle. Elle a une coiffure extraordinaire. Et là, je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Et les femmes ont encore gagné 10 ans et 10 ans. Donc une femme peut être belle à des âges où on n'aurait pas pu penser qu'elle le fut il y a encore quelques décennies.
C'est vrai, mais malgré tout, un homme peut fonder une famille à 60 ans, il peut faire des enfants, et une femme, ça lui sera peut-être possible d'ici, avec des progrès, d'ici une dizaine d'années.
On n'est pas sûr qu'il faille appeler ça des progrès, oui, et puis les hommes de 60 ans, c'est un peu des enfants qu'on leur fait dans le dos. Mais enfin, vous avez raison, il y a cette différence. Simplement, vous dites que la rupture est toujours douloureuse, qu'elle est toujours convulsive, qu'elle est sauvage. Il n'y a pas de rupture galante, par exemple. Même à l'âge de la galanterie, la rupture n'était pas galante. Et vous parlez, Sabine Melchior-Bonnet, des crimes passionnels. Et c'est drôle parce que j'ai retrouvé cette expression en me disant, mais oui, mais cette expression a complètement disparu. Alors il est vrai que naguère, il pouvait y avoir une certaine indulgence pour les crimes passionnels, notamment quand ils étaient commis par des hommes. Et cette indulgence, il est légitime qu'elle n'ait plus cours. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler comme cela. Un autre vocabulaire existe, s'impose. On ne parle plus que de féminicide. Alors, vous qui avez écrit une histoire de la rupture, que pensez-vous de ce terme? Est-ce qu'il est éclairant? D'autant plus que vous parlez même des crimes conjugaux au Moyen-Âge, qui étaient déjà, disons, très nombreux. Et on peut imaginer que dans des situations de liberté réciproque qui est la nôtre, les crimes conjugaux continuent à exister. Est-il légitime de parler de féminicide, Sabine Melchior-Bonnet?
D'abord, c'est un mot qui est très laid, mais c'est pour faire un parallèle avec l'homicide. Homicide créé par des femmes. Je pense qu'il y a les deux côtés. Moi, j'ai vu l'inverse. Hein. J'avais au-dessus de moi, l'étage au-dessus, il y a une femme qui a tué. On a entendu un gros bruit. C'était la femme qui tuait son mari avec un revolver. En fait, elle l'a raté. Et c'était un homicide et pas un féminicide. Je veux dire, il y a les deux côtés de la.
Oui, ça existe aussi.
Ça existe des deux côtés. Alors, le mot féminicide, c'est pour attirer l'attention sur quelque chose qui a l'air d'être nouveau.
Oui, mais est-ce qu'on peut dire qu'en tuant Desdémone, Othello a commis un féminicide? Parce que féminicide, ça veut dire je tue la femme en tant que femme. Or, c'est pas la même chose de tuer la femme en tant qu'elle vous quitte. C'est pas plus excusable, hein. Il s'agit pas d'entrer dans une espèce de hiérarchie, de dire c'est passionnel, donc il y a des circonstances atténuantes. Mais il me semble que la motivation même de ce genre de crime est complètement masquée par le mot de féminicide. On ne va pas tuer. Ça peut arriver, bien sûr, qu'on déteste des femmes en tant que femmes. C'est arrivé, il y a eu un massacre à Montréal, je crois, il y a un certain nombre de décennies. Mais quand vous tuez une femme qui vous quitte, ou un homme qui vous quitte, on ne peut pas parler en ces termes.
Oui, mais c'est l'ère du temps. Pardon, non, c'est juste pour dire que c'est l'ère du temps. De même qu'on parle de harcèlement, on va parler de féminicide. C'est une manière de mettre en avant les droits de la femme et de ses comportements, enfin.
Oui, mais vous écrivez une histoire de la rupture, vous essayez de penser quelque chose, vous êtes historienne des sensibilités, et il me semble que ce terme ne nous éclaire pas nécessairement ni sur les sensibilités d'hier, ni sur la sensibilité d'aujourd'hui.
Non, c'est une affaire de langage.
Qui nous éblouit, c'est un terme qui est là pour nous éblouir et qui fige un peu la pensée. En revanche, il a pour intérêt d'éclairer un rapport de force qui pour l'instant n'a pas bougé, c'est-à-dire que physiquement les hommes sont plus forts et les femmes sont victimes d'une lutte entre mari et femme. En général, la femme perd la bataille physique, mais c'est vrai que le terme est un peu éblouissant et arrête un peu la pensée.
Oui, la femme perd la bataille physique, mais il peut arriver aussi que des femmes tuent leur conjoint. C'est en moins grand nombre, mais il y a aussi des statistiques qui vont dans ce sens. Simplement, voilà, je voulais soulever cette question parce que je trouve vos deux livres très éclairants sur la rupture et que ce mot, comme vous dites, Nathalie Azoulay, nous éblouit un peu. Alors, Sabine Melchior-Bonnet, je reviens vers vous et je voudrais que vous nous parliez, par exemple, de la rupture entre Alfred de Musset et George Sand. Parce que j'ai beaucoup aimé cette phrase de Musset que vous citez. « L'amour vit d'inanition, il meurt de nourriture. »
Oui.
Je suis pas sûr que ce soit toujours vrai. On peut se gaver d'amour et puis se trouver très bien de ce gavage. Mais enfin, on voit ce qu'il veut dire, c'est-à-dire l'amour vit des obstacles, l'amour vit de la difficulté, et puis dans le quotidien d'une vie à deux, l'amour meurt. C'est aussi un peu ce que dit La Rochefoucauld, la durée de nos passions ne dépend pas plus de nous que la durée de notre vie. Alors.
Dire que leur liaison, qui a été très courte, elle a rencontré tout de même beaucoup d'obstacles. George Sand a quelques années de plus que Alfred de Musset. Elle décide d'emmener son amant à Venise et elle va demander, sinon l'autorisation, du moins voir la mère de Musset pour qu'elle valide ce voyage. Et George Sand a toujours aimé les hommes beaucoup plus jeunes qu'elle, donc elle a, pour le coup, elle a une sorte d'autorité sur lui, et le voyage est très long pour aller jusqu'à Venise, et elle tombe malade, c'est des heures et des heures de calèche où elle tombe malade, et donc ça commence tout de même très mal. Ils sont dans un grand hôtel de Venise, mais elle est totalement, il n'est pas question d'amour. Et puis, pendant qu'elle est malade, Musset n'a aucune envie de lui servir d'infirmier et il court les filles dans Venise. Et quand il revient, elle va mieux, mais c'est à son tour de tomber malade et il a une sorte de... On pense que c'est de la typhoïde. Et à ce moment-là, le médecin qu'on fait venir, qui est Pagello, italien, et George Sand ont une relation amoureuse que d'ailleurs Musset devine à travers plus ou moins d'agonie. Et déjà, leur relation est biseautée, enfin, et donc est fêlée dès le départ. Alors, ils essayent de rattraper ça pendant quelques mois, mais au fond, Musset comprend que c'est perdu, et elle va ramener Pagello, il va quitter Venise et aller, Musset va aller à Paris, et revenir à Paris, et elle va revenir aussi un peu plus tard avec Pagello comme amant. Après, ils essayent de se réconcilier Et c'est vrai qu'ils s'aiment, qu'il y a des grands moments d'amour, mais je pense que, d'abord, je crois que Musset est quand même quelqu'un d'extrêmement instable et compliqué, avec des grandes crises. Ça n'est pas tenable sur la durée, surtout que beaucoup de scènes se font devant les enfants qui habitent Paris et qui habitent chez George Sand, et elle ne peut, supporte pas ça, et donc elle s'en va, elle retourne chez elle et dans la Creuse, et elle ne lui laisse même pas de mots pour lui dire qu'elle part, par peur d'être retenue.
Et leur relation. Donc c'est elle qui part. Quand
c'est
même,
elle qui part, ouais. Mais George Sand a un comportement très masculin. Enfin, elle choisit les hommes qu'elle va aimer, elle les renvoie, elle va divorcer. C'est elle qui va prendre l'initiative de son divorce, et elle va toujours avoir pour amants des gens beaucoup plus jeunes qu'elle.
Alors, Nathalie Azoulay, vous disiez tout à l'heure qu'il y a une part d'illusion dans l'amour. Hein, et alors, feriez-vous vôtre cette phrase de Proust que vous citez, je crois, Sabine Melchior-Bonnet, « Notre amour n'appartient pas à celui qui l'inspire ». Iriez-vous jusque-là ? Projection, fantasme, bonheur narcissique, mais notre amour n'appartient pas à celui qui l'inspire.
Bon, j'irais à mi-chemin.
À mi-chemin quand même.
Pour moitié, je pense qu'il lui appartient, et pour l'autre moitié, non, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire que c'est l'image de nous-mêmes qu'on voit se refléter au contact de l'autre, qui est aussi très, très déterminante.
Alors, je vais vous citer, peut-être, je ne sais pas si ça va vous contredire, une phrase, une réflexion très belle de Vladimir Jankélévitch dans le Traité des Vertus. Il dit, et il est moral d'aimer quel que soit l'aimé, et même si l'aimé n'est pas aimable, c'est-à-dire ne mérite pas l'affection que nous lui portons. Car l'amour, s'il est sincère et passionné, a une valeur catégorique et justifie à lui seul les aberrations les plus singulières de l'amant. Une fois au moins dans sa médiocre vie, l'homme le plus sec, tandis qu'il était amoureux, aura connu la grâce de vivre pour un autre, pour une femme. Aussi se rappelle-t-il avec une reconnaissance infinie cette courte saison de sa jeunesse où il fut, comme tous les amoureux, vrai, naturel et désintéressé, où pendant quelques semaines au moins, il cessa d'aimer l'argent, oublia de revendiquer ses droits et d'éblouir la galerie, se révéla modeste et spontané, n'eut d'autres soucis en ses jours bénis que le bonheur de quelqu'un, d'autres plaisirs que les plaisirs d'un autre, se réjouissant de sa joie et souffrant de ses peines, craignant de sa crainte et espérant de son espoir.
Non, je souscris à ça. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage moral dans l'amour qui est fabuleux. Et d'ailleurs, même s'il y a illusion, c'est une illusion salutaire et totalement nécessaire. C'est pas parce que j'emploie le mot illusion que je condamne. Au contraire, je valorise tout ça. Donc, je suis assez d'accord avec ce que dit Jankélévitch. Mais, et je reviendrai encore à mon livre, parce que c'est vrai que dans la sécheresse que l'héroïne veut donner à son film, il y a aussi une vraie question sur sa manière de créer artistiquement. Et mon livre est tout plein de la scène proustienne de Bergotte devant le tableau de Vermeer. C'est-à-dire que Bergotte, au moment de mourir, se demande s'il n'a pas écrit trop sec. Et il en meurt d'ailleurs. Et c'est vrai que Claire Gant se demande à l'occasion de ce film qu'elle veut tourner, Clic-Clac, si elle ne filme pas trop sec. Et c'est vrai que de revivre une histoire qui n'est pas vraiment d'amour avec le partenaire que la vie va lui présenter à ce moment-là, va lui redonner et une vitalité, et une sexualité, et une illusion qui vont être salutaires pour son travail, finalement.
Oui. Alors, d'un autre côté, pour revenir une dernière fois à Jankélévitch, j'adore cette phrase, et en même temps, il me semble qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un de réellement aimable et aimer quelqu'un d'abominable. J'aime l'idée que l'amour puisse être aussi fonction, qu'il puisse y avoir une hiérarchie dans l'amour.
Une sélection.
Une hiérarchie, oui, une sélection, si vous voulez, mais c'est pas la même chose. Un être aimé aimable et un être aimé abominable.
On n'aime pas les vertus de quelqu'un, on l'aime pour autre chose. Ce sont pas ses vertus qui vous font.
Pas des vertus.
Ou de ses qualités. Enfin, ce sont pas ses qualités qui font qu'il est aimable.
Ah, vous croyez?
Non,
je pense. Je me pose la question.
Oui. Oui, enfin, je pense que, par exemple, l'amour est toujours, le désir est toujours moins que l'amour, et que l'amour est quelque chose qui va effectivement beaucoup plus loin, et qui est un don, qui est un don de soi. Et je pense que les plus belles définitions de l'amour, c'est dans l'Imitation de Jésus-Christ. C'est vraiment le où on explique que rien n'est plus beau que l'amour, et que quel qu'il soit, il rend léger les poids, il rend doux ce qui est amer, et celui qui ne peut pas souffrir pour quelqu'un d'autre ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Donc je pense que là, c'est vraiment, c'est pas une projection, c'est vraiment un don, je crois, à ça.
Un don, mais qui peut tenir aussi à ce qu'est la personne qu'on aime. Donc, si vous voulez, à ses qualités. Je ne dis pas à ses vertus, le mot est aujourd'hui mal famé, curieusement. Mais enfin, donc...
Oui. Ça ne fait pas de mal à l'amour d'avoir des qualités, ça c'est certain. Simplement, ce n'est pas une projection de soi seulement, c'est vraiment l'autre qu'il est autre.
L'autre parce qu'il est autre, oui.
Et la liberté de l'autre que nous aimons.
Que nous aimons, oui. Alors justement, d'ailleurs, on peut dire que la liberté des femmes, acquise récemment, est peut-être une chance pour l'amour. Parce que une femme au foyer, une femme à disposition, il est très difficile de l'aimer au long cours. Une femme moins disponible, on peut comprendre que, enfin, justement, elle continue d'échapper. Donc, elle continue, ce faisant, d'alimenter l'amour. Mais nous parlons d'amour depuis le début, l'amour et la rupture. Et dans votre livre, Sabine Melker-Bonnet, vous envisagez la possibilité que l'amour mythe de l'Occident disparaisse un jour. Que ce mythe ne soit, ce mythe, c'est cette idée qui nous a façonnés, ne soit plus de mise à une époque de consommation sexuelle, de liberté grandissante, notamment avec les mutations qu'entraînent l'Internet, les nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça, Sabine?
Je pense que c'est effectivement un danger qui court avec toutes les visions d'Internet, et qu'on va pouvoir calculer avec des algorithmes la femme qu'il vous faut. C'est sûrement un danger. Mais en fait, je pense que l'amour a quelque chose d'absolu, qui, s'il n'est pas pour toujours, il n'est déjà plus l'amour. Et j'aimais bien la phrase de Catherine Pozzi, quand elle voyait Paul Valéry, en disant « J'entre en amour comme on entre en religion ». C'est-à-dire que c'est au fond l'idée de... Alors aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de vocation. Hein. C'est peut-être ça qu'il faut retrouver, c'est la vocation à aimer.
Valéry l'avait, semble-t-il, puisque il a écrit ses vers au moment de sa relation avec Catherine Pozzi, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. Donc, mais vous pensez que cette vocation tend à manquer aujourd'hui?
Oui, je pense. Enfin, non, je pense qu'il y a quelque chose qui ne changera pas. Il y aura toujours une vision de l'amour infinie et mais il est mis à mal aujourd'hui avec les systèmes d'Internet, l'espèce de possibilité illimitée de toujours trouver mieux. Au fond, c'est ça. C'est que on rompt parce qu'on va trouver mieux, et ça peut durer comme ça très longtemps jusqu'à ce que...
Et ça banalise la rupture
et
aussi.
Ça banalise la rupture aussi, qui perd son pouvoir de
rupture.
De rupture et puis de résurrection, enfin aussi.
Vous êtes d'accord?
Je suis d'accord dans la mesure où c'est vrai qu'on entre dans l'ère du clic-clac avec cette multiséquentialité de l'amour, l'enchaînement des séquences, l'extrême succession des histoires, et donc ce qu'on peut appeler la consommation. Mais par ailleurs, je pense qu'il y a une aspiration au sacré qui est là, et que l'amour absorbe, il y a d'autres choses dans la vie qui l'absorbe, mais l'amour est une des zones où le sacré peut se vivre. Et donc si on ne le vit plus là... J'ai bien peur qu'il se réfugie dans des zones peut-être plus dangereuses.
Ah oui, donc il faut continuer à vivre l'amour. Enfin, il faut, c'est absurde, parce qu'on n'est pas là pour sermonner, pour donner des conseils, mais vous ne diriez pas que l'amour est une chose du passé.
Je n'en sais rien, je me dis juste qu'il y a un paradoxe entre, d'un côté, le clic-clac de notre époque, et cette aspiration au sacré qui est encore réservée à l'amour. Et je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Peut-être que ce paradoxe est pérenne.
Alors oui, cette aspiration au sacré, elle est contenue dans la formule « je t'aime ». Puisque « je t'aime » veut dire « je t'aimerai ». C'est à la fois un aveu et un serment. Et d'un autre côté, nous ne sommes plus vraiment romantiques aujourd'hui. C'est-à-dire que qui fait cet aveu et ce serment se dit, quelque part, que ça ne durera pas forcément. Et que, voilà, il prend acte de la finitude de l'amour.
Oui.
Et ça, c'est quand même un changement terrible. C'est-à-dire que, aussi, quelle que soit notre aspiration à aimer, nous ne sommes plus des romantiques. Nous sommes une ou des générations post-romantiques qui, alors, quelquefois, l'amour réserve des surprises, mais l'amour durable est une surprise pour ceux-là même qui se sont fait le serment d'aimer.
Moi, je dirais volontiers que c'est parce qu'il y a, c'est la liberté qui fait ça. C'est qu'au fond, comme que les deux amoureux sont libres, ils ne voient pas forcément la nécessité de raccommoder un amour et de passer par-dessus toutes les souffrances et les difficultés de l'amour.
Oui, c'est-à-dire que l'engagement est bien plus mis à mal. Mais il y a autre chose, c'est la durée de la vie qui est beaucoup plus longue et qui fait que le temps est une épreuve pour le sentiment et que plus le temps est long et plus l'épreuve est difficile.
L'épreuve est difficile, oui.
Les mariages et les ménages duraient 10 ou 14 ans autrefois.
Oui, c'est vrai. Bon, enfin, il faudrait parler à la première personne et donc ce n'est pas possible. Alors je vous remercie toutes deux de cette conversation. Je rappelle, Nathalie Zoulay, le titre de votre livre, Clic-Clac, chez POL. C'est un très beau roman, envoûtant et étrange. Sabine Melchior-Bonnet, Les revers de l'amour, une histoire de la rupture, aux presses universitaires de France. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Champion cycliste. Mes invités seront Romain Bardet, le grand champion, et le grand journaliste Philippe Brunel. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Jean-Michel Bernaud. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.